Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui discute devant le monde pour vivre devant Dieu. C'est ce que veut dire Coram Deo, vivre devant Dieu. Bon, ça veut juste dire devant Dieu, mais implicitement, c'est qu'on discute devant Dieu ou qu'on vit devant Dieu, que toute notre vie est sous le regard de Dieu. Mais aujourd'hui, je ne suis pas que sous le regard de Dieu, je suis sous le regard de mon collègue et ami, le pasteur Frédéric Bican. Bonjour Fred.
Bonjour Pascal, c'est un plaisir d'être à nouveau avec toi.
Ouais, ben on s'est pas quitté pour trop longtemps, même si dans le temps de podcast pour les gens qui nous écoutent, il s'est écoulé une semaine. On veut parler aujourd'hui de l'associationnisme, un grand mot pour parler des relations entre les églises et les églises en particulier d'une même foi et généralement d'une même union. Il y a un rapport formel et on va réfléchir à toutes ces questions-là. Mais je vous rappelle que l'émission Coram Deo est soutenue par ses auditeurs. Alors, si vous voulez devenir un partenaire, devenir un collaborateur, vous pouvez le faire. Il y a un lien dans la description pour nous soutenir. Et il y a également les éditions Publications chrétiennes qui vous recommandent le livre de Thomas Witherow, L'Église apostolique, laquelle? Alors, toutes les églises veulent être apostoliques, mais qu'est-ce qu'il faut pour être apostolique? Est-ce qu'il faut être dans une continuité organique avec les apôtres par la succession apostolique comme le prétend l'Église de Rome? Ou est-ce qu'il faut être dans la foi des apôtres? Ce livre de 108 pages vous aide à réfléchir à la question de l'apostolicité de l'Église, une question vraiment importante, fondamentale à toute bonne ecclésiologie. Alors, mon cher Fred, non seulement tu es pasteur d'une église, mais tu es aussi président d'une union d'église. Vous dites plutôt une union. Nous, on appelle ça des associations. Je pense qu'on a un peu le même concept à l'esprit, mais est-ce que tu peux nous parler brièvement ce qu'est l'action biblique en tant qu'union?
Oui, bien sûr. Alors, en effet, le statut juridique devant la loi française, c'est une association, en plus une association en ce qui concerne l'action biblique, donc loi 1905, c'est-à-dire qu'elle a un objet religieux, cultuel, mais c'est vrai qu'on a plutôt tendance à parler d'union, union d'église ou famille d'église, mais le terme le plus souvent employé, c'est union, et donc l'action biblique est une union d'église qui est née du travail missionnaire d'un presbytère écossais touché par le réveil du Pays de Galles dans son institut à Glasgow et qui est venu après avoir fait donc une formation théologique en Écosse, qui est venu lancer un mouvement missionnaire depuis la Suisse francophone, depuis Genève, pas très loin du mur des réformateurs, et depuis cet endroit-là, et ça a rayonné en direction de la Suisse francophone et de la France, dont la frontière était proche, et au-delà, ensuite, il a envoyé des missionnaires dans de très nombreux pays, et donc ça, ce travail-là a produit des églises qui ont fini par être réunis dans une union, une communauté. Et justement, c'est très très intéressant parce que le sujet que tu proposais pour nous, historiquement, on doit dire qu'on a voyagé dans les différentes manières d'être une union d'église. On est passé d'une structure qui à l'origine était calquée sur une société missionnaire assez pyramidale avec un fondateur à la manière de la fin du 19e ou début du 20e siècle, et puis un staff rapproché et finalement des missionnaires qui étaient envoyés et qui étaient aux ordres d'eux, à une union d'église avec toutes les subtilités et toutes les nuances qu'on voit dans la parole de Dieu. Et il y a dans l'histoire récente encore de notre union d'église, donc, une réflexion qui a dû être faite pour savoir qu'est-ce qu'était une église locale, comment elle se positionne, et c'est tout l'objet de ce sujet qui me semble très intéressant. Quel est le niveau de redevabilité? Quel est le niveau de... Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Est-ce que c'est juste une communion fraternelle? Quelles sont les limites et le contour et en même temps les objectifs d'une union d'église ou d'une association d'église? Est-ce que c'est une manière de transférer le pouvoir de l'anciennat local vers une hiérarchie supérieure ou non? Il y a toutes ces questions-là qui sont à évoquer et qui sont vraiment intéressantes. Et je dois dire que On doit essayer de placer le curseur d'une façon qui soit juste, mais si la parole de Dieu nous donne pas mal d'enseignements sur ce qu'est une église locale, elle est plus discrète sur les interactions entre les églises locales. Je ne dis pas que c'est absent du Nouveau Testament, mais c'est quand même un petit peu moins clair. Et probablement, c'est ce qui a conduit à ce que dans l'histoire de l'Église, on ait plusieurs manières de réfléchir et de mettre en place des structures pour organiser ces associations d'Église, de choses qui étaient extrêmement contraignantes, pyramidales et hiérarchisées, à des choses qui, à l'inverse, étaient extrêmement souple, voire quasiment inexistante.
Ouais.
Donc, il y a vraiment... Voilà.
Ouais. Tu lances un peu les questions qu'on doit se poser, auxquelles on doit répondre sur le rapport entre une église particulière et d'autres églises. Nous aussi, on est membre d'une association. Nous, c'est l'AERBQ pour l'Association des Églises Réformées Baptistes du Québec. Donc, c'est pas une très grosse association, mais c'est une association qui et une base confessionnelle incluant non seulement les doctrines qui sont crues, mais même l'associationnisme est défini à l'intérieur de notre confession de foi. Alors, on pourra en parler un petit peu dans le volet historique de notre discussion d'aujourd'hui. C'est une association d'église. D'abord, est-ce qu'il y a un fondement biblique à cela? On ne voit pas, comme tu le dis... Les apôtres employaient ce genre de langage qu'on a qui nous donne un peu plus l'impression de relever de nos administrations, nos structures administratives modernes. Donc c'est quelque chose qui n'est pas vraiment biblique, qui est plutôt para-ecclésiastique. Mais je pense que, et toi et moi, on croit que c'est plus que simplement le pragmatisme des sociétés modernes, du côté administratif, qui nous amène à collaborer dans le cadre d'une association, à vivre l'associationnisme, parce qu'il y a un fondement biblique à cela. Alors, quels seraient les éléments que tu dirais qui sous-tendent cette doctrine-là dans la parole de Dieu?
Alors, moi, j'en vois au moins deux, et probablement y en a-t-il d'autres. Premièrement, on voit que Paul, lorsqu'il fait des voyages missionnaires, il est envoyé avec la bénédiction de Jérusalem, mais depuis l'église d'Antioche, en direction d'un champ missionnaire qui va générer des églises. Et ensuite, assez régulièrement, on le voit très bien dans la deuxième lettre aux Corinthiens, mais aussi, il me semble, aussi dans Thessaloniciens, la première aux Thessaloniciens, il invite à une forme de redevabilité de la part de ces églises et des membres de ces églises locales qu'il a fondées en tant que missionnaire, à l'égard des églises qui l'ont envoyé, lui, en tant que missionnaire, soit par la collecte de ressources qu'il va ensuite verser à Jérusalem. Je parle de la deuxième aux Corinthiens, où là, c'est assez clair. Et puis, donc ça, c'est un premier élément. On voit que Paul, il agit... en ayant conscience d'être dans un réseau et qu'il y a une forme de redevabilité à l'intérieur de ce réseau et une forme de reconnaissance qui doit s'exprimer de la part des églises plus jeunes en direction de l'église mère, hein, finalement, de l'époque, qui est Jérusalem, et peut-être aussi d'Antioche, qui a été très généreuse en envoyant ses missionnaires. Et je dirais le deuxième élément qui me semble aussi aller dans ce sens-là, c'est la troisième épître de Jean. Alors Jean, dans ses trois épîtres, il met en garde, hein, il est à la fin du premier siècle, il met en garde les chrétiens de son époque contre les dangers qui peuvent menacer l'Église, notamment des personnes qui s'introduiraient et qui seraient des faux docteurs parce qu'ils auraient des doctrines déviantes. Et donc la deuxième épître de Jean, il va mettre en garde les chrétiens en leur disant « ne recevez pas n'importe qui sous prétexte qu'il se dirait chrétien, mais éprouvez sa doctrine, et si la doctrine n'est pas bonne, eh bien ne lui dites même pas salut ». Mais dans la troisième de Jean, il suit l'inverse. la démarche inverse, et il me semble qu'il y a là une démarche d'équilibre, c'est-à-dire que l'Église locale, elle est, d'après lui, elle doit être vigilante de ne pas accueillir n'importe qui et de pas, donc, si on parle dans, par rapport au problème qui nous intéresse, de pas nouer des liens avec n'importe qui. Il doit y avoir un regard doctrinal qui doit être la mesure des liens qui sont noués et reconnus. Et la troisième de Jean, elle va encourager à accueillir les gens qui viennent de l'entourage des apôtres, de l'entourage de Jean, puisque probablement à l'époque où il écrit, il est le dernier survivant de la génération des apôtres. Je vous lis juste quelques versets qui sont les versets 5 à 10. Dans 3 Jean, il n'y a qu'un seul chapitre, hein, donc on ne dit pas la référence du chapitre, c'est un chapitre unique. À partir du verset 5, « Bien-aimé, tu agis avec fidélité dans ce que tu fais pour les frères, notamment pour des frères étrangers, c'est-à-dire des frères qui n'appartiennent pas à l'église locale de celui qui reçoit la lettre, mais qui viennent d'ailleurs. Ils ont du reste rendu témoignage à ton amour devant l'église. Tu feras bien de les aider d'une manière digne de Dieu dans leur voyage. » Donc là, il appelle à une solidarité financière, hein, qui est pas juste l'hospitalité locale. « Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des non-croyants. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin de travailler avec eux pour la vérité. » Donc il y a vraiment l'idée de collaboration qui est supra-ecclésiale, en tout cas au-dessus de, peut-être pas hors de l'église, mais en tout cas au-dessus de l'église locale ou au-delà de l'église locale. « J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous accueille pas. C'est pourquoi si je viens, je rappellerai les actes qu'il commet en bavardant contre nous de façon malveillante. Non content de faire cela, il n'accueille pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'église. » Donc on voit que Jean, là, il est en train d'encourager Gaius. Gaius, c'est celui qui reçoit la lettre, à collaborer avec les frères qui viennent de l'entourage de Jean et qui sont éprouvés comme des frères authentiques. Et il désapprouve l'attitude de Diotrephe, qui serait une attitude complètement isolationniste, qui ne reconnaîtrait que l'autorité de Diotrephe au sein de l'église locale et absolument aucun autre lien parmi les chrétiens de l'époque. Et donc Jean se promet de le reprendre sévèrement lorsqu'il viendra, et on imagine qu'avec l'autorité qu'il avait, en effet, ça a dû être entendu s'il a eu l'occasion de voyager en direction de cette église. Donc voilà, pour moi, les fondements bibliques, enfin les bases bibliques, le point de départ biblique, il est là. L'église locale, elle n'est pas appelée à être complètement détachée de la communion des autres églises. Et il y a une véritable réflexion dès le premier siècle pour réfléchir à quelle redevabilité et quelle unité doit s'exprimer entre les églises locales de l'époque et donc de toutes les époques qui vont suivre.
Ouais, ouais, ben c'est un des points importants qu'on va voir par rapport à l'autorité d'une église locale, la sphère de son autorité, et puis qu'est-ce qu'implique, par exemple, sa discipline si on le système de lettres de recommandation qu'on voit dans le Nouveau Testament et de disciplines qui sont exercées par les apôtres avaient une valeur pas seulement locale, mais devaient être reconnues par d'autres églises. Alors, on voit que les églises ne travaillent pas seules dans leur coin. Et je pense qu'au niveau de la doctrine, il y a un autre élément auquel on peut penser, c'est la distinction entre le concept de l'Église au singulier, qu'on retrouve dans la parole de Dieu en parlant de l'Église universelle, et comment cette Église unique de Christ, il y a une Église, nous dit la parole de Dieu, comment est-ce que ça se conjugue ou quelle est la relation entre cette Église unique et le fait qu'on retrouve aussi des Églises dans le Nouveau Testament au pluriel. Alors, la pluralité d'Églises avec l'unicité de l'Église, je pense, la relation entre les deux qui vient un peu établir la notion de ce que nous, on appelle l'associationnisme. Mais en fait, c'est comment vivre la terminologie là, choque parfois chez les évangéliques, mais la catholicité de l'Église, qui n'a pas rapport avec le catholicisme romain, mais le fait qu'il y a une Église locale quelque part, cette Église-là appartient à un corps qui est plus grand que simplement cette Église, parce que l'Église a un caractère universel. La vraie Église, donc, de Christ englobe tous les croyants de toutes les époques. partout dans le monde. Et puis, donc, cette Église universelle, cette Église catholique, nous ne croyons pas qu'elle soit comme une institution visible avec une hiérarchie, avec un gouvernement qui est propre, parce qu'on ne voit pas... elle a un chef, l'Église universelle, qui est Christ. Mais Christ n'a pas établi de représentant. Je pense que c'est une mauvaise exégèse de dire que Pierre était ce premier chef et qu'il y a une succession apostolique et donc que l'évêque de Rome serait chef de l'Église universelle. Donc, l'Église universelle, pour nous, elle est invisible dans le sens où elle n'est pas une institution, il n'y a pas un bureau quelque part, un pouvoir centralisé. C'est l'Église de Jésus-Christ qui inclut tous ceux qui sont sauvés, qui sont l'Église. Mais cette Église devient visible lorsqu'il y a un rassemblement, parce que c'est ce que veut dire littéralement le mot Église, c'est une assemblée. Et donc, il y a des assemblées, des ecclésias qui se regroupent. Et on ne peut pas donc réunir une Église universelle. On est forcément limité dans l'espace et dans le temps. On est à un seul endroit à la fois, même si aujourd'hui, on peut faire de la web diffusion qui permet à des gens d'un peu partout sur la planète de rendre un culte en même temps. Le vrai rassemblement, c'est lorsqu'on est présent physiquement ensemble, en esprit, en vérité, pour rendre un culte à Dieu, pour servir Dieu, pour s'organiser en tant qu'Église selon les ordonnances de la Nouvelle Alliance et du Nouveau Testament. Et là, il y a comme une façon concrète où cette Église universelle prend forme, prend corps quelque part. Mais chaque Église locale n'est pas unique, n'est pas complètement indépendante pour faire ce qu'elle veut. Elle ne peut pas donner la couleur qu'elle veut au christianisme ou réinventer la foi. Elle est pour demeurer une église et ne pas devenir une synagogue de Satan, pour ne pas devenir apostasier et perdre son chandelier, doit rester dans la vérité. Et donc, il y a dans une église locale un peu ces deux pôles. C'est une église qui est locale, il y a un gouvernement local, mais qui appartient à quelque chose de plus grand qu'elle. Et la façon que cette relation avec l'église universelle va se vivre, c'est souvent au travers d'une association, c'est au travers d'un rapport, d'une communion avec d'autres églises, où elle va vivre un rapport de réciprocité, où elle va concrétiser sa relation avec l'Église de Jésus-Christ au singulier, pour essayer de goûter un peu à cette universalité. Maintenant, dans l'histoire de l'Église, ce concept a pris différentes formes d'articuler bibliquement comment est-ce qu'une congrégation est en relation avec d'autres. Il y a eu de la rivalité, il y a eu par moments des églises qui avaient plus de pouvoir et qui exerçaient une ascendance, puis on a essayé d'associer à l'autorité apostolique ce pouvoir-là. Avec initialement peut-être l'Église de Jérusalem, mais par la suite, dans l'histoire, avec les siècles qui ont passé, c'est Rome qui a atteint une prédominance. Mais pendant longtemps, il y avait une rivalité aussi avec Constantinople, avec Antioche, des églises importantes. Donc, qu'est-ce que, de ton étude un peu de l'histoire de l'Église, tu retiens sur cette question-là de... l'associationnisme, comme vous le vivez aujourd'hui? On n'aime pas penser que notre théologie est apparue un peu en rupture avec l'histoire qui l'a précédée. Il y a nécessairement une rupture quand on arrive un peu à la réforme de l'Église, où on va revoir la notion de la catholicité de l'Église, et puis on se sépare de Rome, et ça a forcément un impact par rapport à la relation entre une église particulière, que ce soit nationale ou locale ou régionale, par rapport à l'ensemble des églises universelles. Comment quelle page de l'histoire t'apparaît importante pour réfléchir à la question de l'associationnisme et comment on le vit aujourd'hui?
Alors, il me semble que dans l'histoire de l'Église, on peut voir quatre niveaux différents sur la façon de concevoir les relations entre l'Église locale et le reste des églises, et ce qu'on pourrait appeler l'Église universelle. Il faut préciser que si on utilise le mot catholique, donc tu as précisé que c'était pas au sens de catholique romain, c'est parce que en grec, catholikos, ça veut dire universel. Mmh. Et c'est pour ça, les catholiques se l'appliquent à eux-mêmes, et ils considèrent qu'ils sont l'Église universelle, et que hors de l'Église, point de salut, sous-entendu hors de l'Église catholique. En tout cas, ça a été la doctrine de l'Église catholique assez longtemps, et ils ont eu tendance même après Vatican II à considérer que les chrétiens qui ne sont pas catholiques sont finalement des frères égarés loin du troupeau qu'ils devraient ramener. Mais nous, quand, si jamais on utilise, lorsqu'on utilise le terme catholique, c'est pas pour dire catholique romain, mais c'est pour dire universel, par allusion aussi au credo qui disait que l'Église était une sainte catholique ou universelle et apostolique. Donc c'était les quatre marques de l'Église universelle dans les premières formulations de la foi chrétienne. Et il me semble que donc on pourrait distinguer quatre niveaux d'organisation de l'Église qui ont traversé l'histoire de l'Église sur les deux derniers millénaires. Premièrement, celle qui a fini par triompher dans le catholicisme, c'est-à-dire une hiérarchie pyramidale qui essaye de reproduire l'autorité des apôtres incarnée en un seul homme, entouré donc de personnes qui lui sont dévouées, qui forment la curie romaine, et ensuite qui s'articulent de façon pyramidale jusqu'en bas de l'échelle, en passant par les archevêques, les évêques, les prêtres, les diacres, et puis les simples fidèles des églises locales. Donc cette forme-là, eh bien, nous la désapprouvons, et voilà, il y a de bonnes raisons de le faire, et quand tu parlais tout à l'heure, je me disais, c'est amusant, le fait qu'on soit cessationniste, on l'oppose souvent à la vision charismatique et pentecôtiste des choses, mais en fait, on pourrait aussi l'opposer au catholicisme, le fait qu'on soit cessationniste, c'est-à-dire qu'on peut pas transposer l'autorité des apôtres de ce côté-ci de l'histoire de l'Église, parce qu'on considère qu'après la disparition des douze choisis par Christ, on n'est plus dans la même économie et qu'il y avait des dons particuliers, une vocation particulière des apôtres qui n'est pas transmissible une fois qu'ils ont posé les fondements. Donc on peut pas se réclamer successeur de Pierre et exercer la même autorité que lui. Le cessationnisme de ce point de vue-là aussi est utile. Amen. Donc on n'est pas d'accord avec le catholicisme et puis sa façon de voir l'Église, mais on doit lui reconnaître le génie de l'organisation à travers les siècles et les millénaires et d'avoir essayé d'apporter une solution pragmatique à une église, une communauté qui à un moment coïncidait avec l'ensemble du monde connu, tout l'Empire romain et ensuite toute l'Europe occidentale et même le nord de l'Afrique jusqu'à l'invasion arabe. Et donc le catholicisme a essayé de répondre à ces défis-là, et on va dire que sur le plan humain ça a plutôt été un succès, même si nous en tant que héritier de la réforme et du protestantisme, on va avoir un regard critique sur cette organisation-là qui parfois a été accusée de plutôt de pencher du côté de pouvoir politique et de la gloire d'une autorité humaine plutôt que de chercher à vraiment administrer selon la parole de Dieu. Mais c'est un modèle qui a été donc qui a influencé notre culture, donc il faut en tenir compte. Ensuite, je dirais qu'il y a un modèle épiscopalien, c'est-à-dire qui va donner une autorité non pas à un homme unique, mais à des hommes qui sont supérieurs aux églises locales et à qui on se réfère et qui sont des évêques, épiscopos, hein, en grec c'est évêque, et c'est ce qui a donné évêque dans notre langue. Et donc il y aurait une forme de hiérarchie, mais paritaire, à la place du pape. Donc c'est un peu ce qu'on peut voir dans l'église anglicane ou ce qu'on voit dans l'église épiscopalienne aux États-Unis, qui correspond à l'église anglicane, mais de dénomination américaine. Et il semble que c'est une organisation qui soit assez ancienne. Je vais vous lire là un extrait de Ignace d'Antioche qui écrit aux Magnésiens. Donc Ignace d'Antioche, c'est un responsable d'église qui est un des premiers martyrs du deuxième siècle, début du deuxième siècle, et il a écrit des lettres d'encouragement à la fois pour témoigner, pour encourager les églises de son époque. Et voilà ce qu'il écrit au début donc de cette lettre aux Magnésiens. Je vous lis: puisque j'ai eu l'honneur de vous voir par l'intermédiaire de Damas, votre évêque digne de Dieu, et des dignes presbytres, Bassus et Apollonius, et de mon compagnon de service, le diacre Zotion. Puissais-je jouir de lui, car il est soumis à l'évêque comme à la grâce de Dieu et au presbytérium comme à la loi de Jésus-Christ. Donc on voit clairement, et ça revient régulièrement dans cette lettre d'Ignace d'Antioche, que pour lui, il y a trois niveaux de hiérarchie dans l'Église de son époque, en tout cas tel qu'il souhaite l'organiser et qu'il la préconise. Il y a les évêques, qui ne sont pas nécessairement responsables d'une église locale, mais plutôt responsables de plusieurs églises locales et auxquelles on se réfère. Ensuite, vous avez les presbytres, ce qui a donné le mot prêtre chez nous, et qui sont responsables soit seuls, soit dans un collège de l'église locale. Et ensuite, vous avez les diacres qui vont décliner les services pratiques. Et vous avez vu que la hiérarchie, Ignace l'appuie d'une façon spirituelle en la référant à l'évêque comme à la grâce de Dieu et le presbytérium comme à la loi de Jésus-Christ. On a l'impression qu'il refait une sorte de hiérarchie, alors en plus qui serait peut-être pas très orthodoxe, mais une sorte de hiérarchie fonctionnelle dans la Trinité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et il y aurait cette sorte de hiérarchie-là qui est sous-entendue. Donc ça, c'est un système avec lequel on n'est pas à l'aise non plus dans le monde évangélique, mais il existe, et il faut dire qu'à l'intérieur de l'Église anglicane ou épiscopalienne, il peut y avoir des églises ou des serviteurs de Dieu qui ont une doctrine qui, sur les autres points, en dehors de l'ecclésiologie, va être proche de la nôtre. Le troisième modèle, me semble-t-il, c'est ce qu'on appelle le modèle presbytéro-synodal, c'est-à-dire celui qui va mettre en œuvre sur le plan local un pasteur et puis qui va faire dépendre, on va dire, l'autorité doctrinale de l'Église locale, non pas du pasteur seul, qui serait le berger sur le plan local, mais d'un synode qui regroupe les représentants des églises et les pasteurs des différentes églises de même dénomination et qui vont décider de la confession de foi, de l'arbitrage des cas difficiles de discipline, de l'orientation, etc. Et finalement, les églises locales vont devoir appliquer ce que ce synode, parfois national, va décider en réunissant tous les représentants des églises locales, pasteurs compris, et parfois avec des laïcs également. Et puis vous avez, donc il y a certaines dénominations protestantes qui fonctionnent sur ce système presbytéro-synodal, notamment nos collègues presbytériens, qui ont donc une théologie presbytérienne avec la doctrine de l'Alliance telle que la conçoivent les réformés historiques. Et puis, le dernier manière de voir les choses, c'est ce qu'on appelle le congrégationalisme, c'est-à-dire la congrégation, l'assemblée locale dont tu parlais tout à l'heure, qui en elle-même est une structure suffisante du point de vue de la discipline, de l'autorité, de l'administration de la parole et des sacrements, et qui doit avoir normalement un collège d'anciens, quand c'est possible, et qui est dans un dialogue vertueux avec l'assemblée des membres responsables, et de ce dialogue vertueux sort l'essentiel des décisions, proviennent pour l'essentiel toutes les décisions qui sont prises et qui impactent le fonctionnement, l'orientation, etc. de l'Église locale. Et c'est là que nous, on va devoir réfléchir, oui, mais dans la mesure où, on va dire, 95% de tout ce qui doit être décidé, réfléchi pour une église locale vient de ce dialogue entre ce collège d'anciens d'un côté et puis l'assemblée des membres de l'autre, donc l'un et l'autre dans un dialogue vertueux si possible. Oui, mais quelle relation alors avec les autres unions, puisque les trois autres modèles proposent une hiérarchie qui simplifie les relations avec le reste des églises locales, mais là, dans le modèle congrégationaliste, dans la mesure où il donne une très grande autonomie à l'assemblée locale, comment on va envisager les relations avec les autres? Et c'est là où on va devoir réfléchir à quel degré on place le curseur de collaboration au sein d'une association d'églises. Il y a des églises qui vont être extrêmement indépendantistes et ne vouloir rendre compte à personne, et on va pouvoir évoquer quels excès ça entraîne. Et puis, voilà, et d'un autre côté, jusqu'où aller dans l'association avec des églises de même confession, qu'est-ce qu'on met en commun, qu'est-ce qu'on reconnaît, et dans quelles circonstances. Et là, on n'a jamais fini de réfléchir à ce genre de problème.
Ouais. Permettez-moi de prendre un instant pour souligner l'importance cruciale de la formation théologique. Je suis très heureux de collaborer avec la faculté Jean Calvin d'Aix-en-Provence. C'est un établissement reconnu pour son enseignement biblique et théologique de très grande qualité. La faculté Jean Calvin offre une formation pour préparer de futurs pasteurs, mais aussi divers serviteurs en les équipant pour répondre à l'appel de Dieu sur leur vie. Que vous envisagiez le pastorat ou souhaitiez simplement approfondir votre compréhension de la Bible, de la théologie, des langues bibliques et de l'histoire du peuple de Dieu, je vous recommande vivement les programmes de la faculté Jean Calvin. Ils sont disponibles aussi bien sur le campus dans la magnifique région d'Aix-en-Provence que via la formation à distance, offrant une flexibilité optimale. Si vous voulez en savoir plus, consultez le site facultéjeancalvin.com. Ben merci, ça nous situe bien quand on regarde voilà, de cette perspective historique, les quatre grands modèles là, de gouvernance de l'Église. Et l'enjeu particulier pour les églises congrégationalistes de se rendre redevable ou de vivre ce qu'on pourrait appeler la catholicité de l'Église, de comprendre qu'ils ne sont pas sur une île, ils sont en communion avec d'autres églises. C'est important de réfléchir comment le congrégationalisme moderne là, est arrivé là, dans le cadre de la Réforme au 17e siècle. Ben, la Réforme a commencé un siècle avant, mais il y avait une réforme magistérielle, c'est-à-dire que c'était en collaboration avec les autorités civiles que la Réforme a pu se faire, que Luther, Calvin, Zwingli ont travailler à réformer l'Église, mais c'était donc main dans la main avec le pouvoir civil que le pouvoir ecclésial fonctionnait. Et c'était surtout une structure d'Église nationale ou régionale qui reflétait la composition de la société civile en même temps que l'Église. Peut-être un siècle après, le congrégationalisme naît dans le contexte de la réforme anglaise où on voit que ce modèle de l'Église, d'une Église nationale avec à sa tête le monarque qui est à la fois le chef d'État et le chef de l'Église, semblait pas être un modèle scripturaire. Que à la fois quand on regarde dans l'histoire plus primitive des premiers siècles, l'Église a davantage là, une structure qui reflète les différentes congrégations dans les localités qui collaborent entre elles. Mais quand on lit l'Écriture, ben c'est ce qu'on voit, c'est que l'Église est une assemblée qui se réunit quelque part et qui exerce le pouvoir, hein, quand Jésus dit par exemple si ton frère a péché, puis le processus disciplinaire quand il ultimement c'est dis-le à l'Église, ben, c'est à quelle Église tu le dis? Est-ce que c'est à l'Église universelle? C'est à qui est-ce qu'on s'adresse exactement? Ben, dis-le à l'Église, c'est dis-le à la congrégation, dis-le à l'Assemblée, et on le voit par les Épîtres. Ou concrètement, c'est la congrégation, par exemple, de Corinthe ou d'Éphèse qui exerce une discipline sur ses membres. Donc, cette idée du congrégationalisme, finalement, c'est que la structure de base pour vivre la vie d'Église, c'est une assemblée qui se situe localement. Mais ça ne veut pas dire que cette assemblée locale doit avoir une indépendance absolue. Je mentionnais que nous, il y avait un caractère un peu confessionnel, parce que dans notre confession de foi, donc la notion du congrégationalisme est bien définie dans le chapitre le plus long de la confession, le chapitre 26, dans la deuxième confession de foi baptiste de Londres de 1689. Au chapitre 26, ça nous dit au paragraphe 7 qu'à chacune de ces églises ainsi rassemblées, selon sa pensée exprimée dans sa parole, le Seigneur a donné tout pouvoir et toute autorité qui sont en quelque matière nécessaires pour mettre à exécution l'ordre dans le culte et la discipline qu'il a instituée pour qu'il soit observé. Dans ce but, il a pourvu l'Église de commandements et de règles qui lui permettent d'exercer dûment ce pouvoir. Donc, c'est le particularisme, c'est-à-dire que chaque Église particulière a les clés de sa propre porte, dans le sens elle exerce le pouvoir des clés, elle admet, elle exclut, elle ordonne ses propres officiers, elle est directement sous le Christ. Mais on voit dans la même confession que ces églises fonctionnaient en collaboration avec d'autres églises, comme on voit dans l'Écriture, comme on le voit dans toutes les pages de l'histoire de l'Église. Et comment, finalement, est-ce que cette collaboration prend forme? Ce qu'on retrouve dans cette confession, elle parle de communion. Et pour nous, la communion, ça a un peu un sens informel. Je suis en communion avec Fred en ce moment. On est des amis, des frères dans le Seigneur. On échange, on partage nos points de vue. On s'encourage, on peut prier ensemble. C'est ça, la communion. Mais le mot communion, dans le contexte de la confession de foi de 1689, a le sens d'association. Et c'est les travaux du docteur James Renihan en particulier qui ont démontré que l'usage de ce mot-là avait une notion beaucoup plus formelle que ce qu'on entend généralement aujourd'hui quand on parle de communion entre frères et sœurs ou de communion d'église. Il est dit, par exemple, dans les cas où une église aurait des difficultés en matière de doctrine ou de gouvernement ecclésiastique qui peuvent arriver dans une église qui mettent en péril la paix, l'unité ou l'édification. Donc, dans de tels cas, la pensée du Christ est que plusieurs églises qui jouissent d'une communion entre elles envoient des délégués. Et donc, la communion de ces églises, quand une église entretient des liens, il y a cette notion un peu formelle qu'on est redevable à une église, à d'autres églises, à un regroupement d'assemblées avec qui on peut établir des liens pour travailler ensemble, pour implanter d'autres églises, pour échanger des ressources et quand il y a des problèmes dans une église locale, appeler à l'aide d'autres églises. Mais cette communion ne se substitue pas au gouvernement d'une église locale. Par contre, il est vraiment une sauvegarde à des dérives potentielles, parce que le congrégationalisme, on a beau l'encenser et dire que c'est la huitième merveille du monde, que c'est le fonctionnement biblique de la vraie Église telle que Christ nous le révèle dans la parole, ça reste un défi par moment de garder en santé cette forme de gouvernement d'Église. Et l'associationnisme peut justement être une sauvegarde à ces dérives potentielles. Donc, Fred, tu as assez d'expérience là, comme pasteur, comme président d'Union, pour peut-être nous partager un peu ta réflexion sur c'est quoi les dérives potentielles d'une congrégation particulière et comment est-ce qu'une association peut être une sauvegarde dans ces cas-là?
Alors, en tout cas, je ne sais pas si l'association en elle-même est une sauvegarde absolue, mais en tout cas, le fait d'être inscrit de façon active et intentionnelle dans une association qui dépasse l'église locale, c'est le signe pour une église locale qu'elle va essayer de se rendre redevable et sans demander à une autorité extérieure de venir faire le travail qu'elle est censée faire, donc avec les deux structures dont on parlait tout à l'heure, l'ancienne paritaire d'un côté et puis l'assemblée des membres de l'autre, eh bien, ça va permettre de rester en dialogue et de donner la possibilité à d'autres, dans un dialogue fraternel, de pointer du doigt ou d'attirer l'attention ou de stimuler ou de confronter pour ne pas être tout seul enfermé dans une bulle, un peu comme on voit Diotref que critique l'apôtre Jean dans l'extrait qu'on a lu tout à l'heure, qui empêchait tous ceux qui ne venaient pas de l'église locale de venir prendre la parole ou même entrer en contact avec les membres. Et je pense qu'une des dérives qui peut être vraiment préjudiciable à l'église locale et au témoignage de l'évangile, c'est quand un congrégationalisme sera vécu de façon tellement extrême que le pasteur sera perçu comme, ou éventuellement les anciens seront perçus comme tout-puissant, comme autorité absolue. On va critiquer le catholicisme, mais dans certaines églises très indépendantes, le pasteur, il a quasiment l'autorité du pape dans l'église locale, avec une impossibilité de le critiquer, sinon on critique le serviteur de Dieu
loin
qui est là,
de l'éternel.
Etc. Voilà, il y a pas d'ironie, hein. Je veux dire, c'est en effet, je crois tout à fait que les pasteurs et les anciens sont des personnes appelées par Dieu à le servir, mais ça fait pas de nous des gens infaillibles. Et il faut qu'on ait la sagesse de se mettre dans des structures qui nous entraîne à une forme de redevabilité, de même que le Seigneur dans l'Ancien Testament veillait à ce que tous les pouvoirs ne soient pas entre les mains du même homme, en séparant prophètes, sacrificateurs et rois, et qu'il utilisait chacun des magistères pour reprendre l'autre quand il y avait une erreur, eh bien dans l'Église locale, il ne faut pas qu'on se croie meilleur et plus fort que ceux qui nous ont précédés dans l'histoire du peuple de Dieu, et qu'on pourrait réunir toutes les autorités de l'Église entre les mains d'un seul homme ou d'un très petit groupe d'hommes, comme s'il était forcément infaillible. Il faut avoir la sagesse déjà d'exprimer la communion clairement avec d'autres églises. L'église, c'est pas que sur le plan local. L'église locale, c'est un petit bout de cette église universelle, et on doit témoigner de cette communion d'une façon claire, positive, active, etc., intentionnelle, et aussi être confronté. Alors, il m'est arrivé de dialoguer avec un responsable d'une église qui était en train de s'isoler complètement. Ils avaient démissionné de leur union d'église et ils avaient commencé, enfin voilà, à promouvoir un enseignement. On a l'impression qu'ils redécouvraient, comme s'ils redécouvraient eux-mêmes toutes les vérités bibliques, et qu'il n'y avait plus aucune église sur terre en dehors de la leur. Et j'avais discuté avec ce frère en lui disant, mais ne vous démettez pas dans une situation où personne ne sera en mesure de vous dire que vous vous trompez.
Ouais.
Voilà, peut-être que vous avez raison dans certains domaines, mais et là, vous voyez que ce qui menace le congrégationalisme, ce qui menacerait le congrégationalisme extrême, c'est une forme de dérive sectaire, où les gens sont enfermés dans un groupe, et hors de ce groupe, point de salut, et on force le trait d'une façon qui est excessive, et de ce fait, eh bien, on tombe dans un excès, je pense, qu'il faut éviter, et qui est dénoncé aussi bien par Paul que par Jean dans le Nouveau Testament.
Ouais, puis bon, tu as évoqué Diotrephe qui recevait pas d'autres en dehors de l'Église. L'autoritarisme, je pense, c'est une des dérives. On a à l'intérieur de l'Église d'abord la pluralité d'anciens qui va servir un peu comme sauvegarde, mais c'est pas absolu, parce que ça, l'autoritarisme peut arriver au sein d'un collège d'anciens et des abus qui sont faits même. En commun. Et je dis pas que l'associationnisme va forcément être une pleine sauvegarde, mais si dans les structures même de l'Église, si dans sa constitution, il y a des recours, par exemple, pour des membres qui seraient lésés par des mesures disciplinaires abusives, ou si les pasteurs sont soumis à certains critères théologiques, académique ou plutôt confessionnel, et qu'ils en dévient, qu'est-ce que peuvent faire des membres? Ils peuvent en appeler à un pouvoir qui est à l'extérieur de l'Église locale pour qu'il se passe quelque chose quand l'Église n'arrive pas elle-même à solutionner une tension, un problème. Maintenant, il y a un danger, je pense, qui vient avec ça, une dérive potentielle de l'associationnisme serait de s'immiscer dans le gouvernement d'une église de façon abusive, et que l'association elle-même devienne un gouvernement d'église. Je pense que plus on arrive avec une association qui prend de l'importance, qui a de l'influence, plus c'est, le risque est élevé à un bon moment donné que ça soit un pouvoir centralisateur qui dirige les congrégations. Est-ce que tu vois d'autres dérives potentielles par rapport à une association d'église vis-à-vis des congrégations?
Écoute, moi je pense que c'est le problème dramatique depuis la chute de la façon qu'ont les hommes de gérer le pouvoir, qu'ils soient chrétiens ou non. Jésus est déjà en train de reprendre les apôtres parce qu'il cherche à savoir qui est le plus important parmi eux. Mm-hmm. Et il leur dit, mais c'est pas comme ça que vous devez réfléchir. Celui qui veut être le responsable, il doit être le serviteur de tous. Et donc on doit réfléchir d'une façon très très sage à la manière de gérer le pouvoir. Mais il est vrai que quand on est confronté à des situations de pouvoir, le pouvoir en lui-même peut être très séduisant et l'occasion de chute, que ce soit sur sur le plan local dans une église locale comme sur le plan d'une association. On peut s'enorgueillir et penser que, hein, comme Nebuchadnezzar, que nous sommes détenteurs d'une autorité dont nous sommes la source, alors qu'en fait, elle nous a été confiée par Christ. Donc, là encore, c'est quand même important d'être dans une situation de redevabilité pour que des personnes, tant sur le plan local que de l'association, que sur le, dans le domaine évangélique, enfin, ou de, des mêmes dénominations, quand on va être en dialogue, voilà, soit en mesure de tirer le signal d'alarme, d'attirer, de nourrir notre réflexion, et que le Seigneur puisse utiliser ces moyens-là pour nous ramener à la raison, en plus de la méditation de sa parole. Voilà. Je dirais, si tu permets, avant de parler de, aussi de développer davantage sur les dangers de l'associationnisme, dans ces qualités, il y a quand même, il faut pas oublier, ce qu'on oublie parfois très rapidement dans les milieux très congrégationalistes, tous les bienfaits qui nous proviennent de structures supérieures à l'église locale. La fameuse confession de foi 1689, eh bien, je ne sais pas combien d'églises locales seraient capables de la réécrire, mais certainement très très peu, peut-être aucune. Et ce que je veux dire, c'est que l'orientation doctrinale majeure, la réflexion profonde, l'étude de la parole, la création d'instituts bibliques où les serviteurs de Dieu vont vont apprendre, les œuvres qui vont être capables d'envoyer des missionnaires, toutes ces choses-là, l'édition de la parole de Dieu elle-même, sa diffusion, tout ça implique des structures transversales qui vont dépasser l'église locale. Aucune église locale, aussi grande soit-elle, n'est capable à elle seule de faire tout. Tous ces aspects-là, il y a une forme de complémentarité dans l'Église universelle qui doit glorifier le Seigneur. Et il faut qu'on cherche à travers l'association, et l'association elle-même, elle est en dialogue avec des associations de même tendance. Et voilà, il y a un phénomène de poupée russe, hein, qui nous inclut au fur et à mesure dans l'Église universelle, bon, ou au moins dans l'Église visible telle qu'elle s'exprime à notre époque. Et il y a des arbitrages à chaque fois, à chaque niveau, pour dire quelle solidarité je vais privilégier. Est-ce qu'on se rapproche de tel mouvement? Voilà, nous, on réfléchit. Nous, on se sent très proche d'Évangile 21 en France, au niveau de l'Action Biblique France, de Nine Marks. Voilà, donc on va inciter à ces ressources-là. Et évidemment, c'est des ressources qui renvoient à des structures qui dépassent notre petite association d'église, et qui vont générer des relations fraternelles et des formes de redevabilité encore différentes. Donc, on n'a jamais fini de travailler à cet équilibre-là, mais on veut quand même respecter, et je reviens donc à ta question, faire attention au fait qu'il n'y ait pas une dérive de l'associationnisme qui prendrait le pas. Et je pense que le danger le plus grand, ce serait que l'association, en fournissant des ressources de qualité et une forme d'autorité supérieure, finirait par déresponsabiliser l'église locale, à la fois déresponsabiliser ceux qui devraient prendre leurs responsabilités pour être anciens, et déresponsabiliser même les membres, en disant, bah, de toute façon, tout vient d'en haut, tout vient de l'association, il nous envoie les serviteurs de Dieu, il les retire, et puis finalement l'église locale, elle a pas grand-chose à dire, et on favoriserait probablement une dérive un peu consumériste, c'est-à-dire que voilà, les gens viennent là pour avoir un service qui est décidé et organisé par d'autres très loin du plan local, et ça, ce serait préjudiciable à la vision de l'église locale qu'on voit dans le Nouveau Testament.
Ouais, puis on voit, c'est ça, historiquement, avec soit les grandes églises nationales ou dans le catholicisme, où souvent la pertinence d'une paroisse, d'une église locale, lorsqu'elle devient un peu englobée, s'efface là, dans une structure nationale, où ça devient presque optionnel, on est là un peu comme spectateur, on n'a pas beaucoup de poids, tandis qu'il y a un dynamisme dans la vie d'une église locale où le congrégationalisme est bien vécu. Je pense que par rapport à des conseils concrets pour garder un sain équilibre entre finalement ces deux pôles, un, l'indépendance de l'Église, le fait que la congrégation elle-même s'autogouverne sous la parole de Christ, mais que c'est pas une indépendance absolue. L'autre pôle, c'est sa redevabilité envers les autres Églises. Il faut établir dans le bon ordre le rapport entre l'Église et une association et tout ce qu'une association peut faire, que tu as énuméré plusieurs choses en parlant des différentes institutions qui peuvent naître d'une association, que ce soit des séminaires de formation d'ouvriers ou la mission ou la publication d'ouvrages. Il faut, je pense, que tout cela relève d'une Église. Même, et c'est une des choses un peu que je reproche parfois à les grandes organisations évangéliques, là, TGC ou autres, qui deviennent un peu des organisations pareilles ecclésiastiques, mais qui sont relevables à qui exactement? Et l'autorité qui représente Christ sur terre et qui applique l'autorité de sa parole, c'est l'Église. Alors, il ne faut pas que ça devienne comme deux choses indépendantes, c'est-à-dire où on aurait comme toutes tous les trucs pareils ecclésiastiques qui fonctionnent d'eux-mêmes avec leur propre CA et tout ça. De façon concrète, oui, c'est normal qu'il y ait une organisation, qu'il y ait une administration pour eux, mais il faut, à mon avis, impérativement qu'ils soient redevables à des églises. Pas forcément à une seule église, mais que dans une association, c'est pas l'association n'est pas placée au-dessus des églises, c'est pas l'association et le conseil d'une association, son conseil d'administration ou peu importe la structure, qui deviennent l'autorité au-dessus de l'église, mais il faut que les églises, par une assemblée générale, par dans sa constitution, puisse être celle qui exerce la supervision de l'ensemble de ces ministères-là. Et je pense que c'est la seule façon de garder de sauvegarder l'équilibre entre une église et d'autres églises et tous les différents ministères en respectant ce que Christ a établi. Christ n'a pas établi un séminaire de théologie, n'a pas établi une maison d'édition, n'a pas établi un ministère de podcast, mais il a établi une église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Et puis, en ayant une communion entre elles, les églises s'assurent donc de superviser l'ensemble des églises qui professent la foi avec lesquelles elle est en communion et des ministères qui relèvent de ces églises. Donc, je suis un peu prudent avec tout ce qui n'est pas sous l'autorité de l'Église, qui est un peu comme en parallèle, parce que ces sujets, voilà... À dévier plus facilement, à mon avis.
Je suis d'accord avec toi. Il me semble que Évangile 21, qui est la branche francophone en Europe de la Gospel Coalition, a essayé de la Gospel Coalition a demandé donc aux structures qui se sont formées ailleurs et en particulier à Évangile 21 de constituer un conseil avec des gens représentatifs des églises pour élargir et pour pas que ça repose uniquement sur un conseil d'administration. Par ailleurs, Évangile 21 ne prétend pas administrer une église locale, il propose des ressources. Et ouais. Si on parle de Nine Marks, ils ont une démarche qui est encore plus congrégationaliste, c'est-à-dire que moi j'apprécie vraiment beaucoup ça dans ce mouvement-là, c'est-à-dire que Marc Dever et son équipe à Washington, Capitol Hill Baptist Church, ils ont produit quelque chose dans leur église, ils présentent ce qu'ils ont produit, ils montrent comment ils sont arrivés là, ils expliquent les bases bibliques qui les ont conduits, mais après ils nous mettent tout entre les mains et disent à vous de jouer les gars. Et ils sont jamais en train de revendiquer une autorité, alors qu'ils pourraient le faire, hein. C'est quelqu'un de brillant et il aurait très bien pu fonder un mouvement et en être le pape, entre guillemets. Il est très responsabilisant et respectueux même de la culture différente et de la façon dont les ressources qu'il propose vont se décliner dans la culture locale. Et de ce point de vue-là, il est cohérent dans son ecclésiologie congrégationaliste. Et donc, voilà, nous, on est sensible à ce type de ressources. Et en même temps, c'est des ressources qui, tout en nous mettant en communion avec des églises d'autres lieux que celui où nous sommes, eh bien, vont nous affûter dans notre propre responsabilité locale et nous donner des outils. En effet, comme tu le dis, ça va être à l'église locale d'examiner comment on met en œuvre et ce qu'on accepte, etc. Mais avec peut-être des ressources qu'elle n'aurait pas eu la capacité par elle-même de produire à ce niveau de qualité.
Ouais, tout à fait. Ouais, bon, mais c'est ça. Et c'est toujours un défi de garder cet équilibre-là, de s'assurer qu'on se rend... redevable, mais c'est vrai même pour les croyants, je veux dire individuellement, de vivre la vie chrétienne individuellement, mais collectivement. Alors, c'est aussi vrai au niveau de l'Église de vivre la vie chrétienne localement, mais en faisant partie de l'Église universelle et d'être en communion avec d'autres églises. Mais donc, nous croyons que d'avoir une forme d'association formelle dans laquelle on se rend redevable, on se donne des obligations, on se fait rapport les uns aux autres, on délibère, on avance ensemble, ben que c'est la meilleure façon qui a fait ses preuves, qui a un fondement biblique et historique pour vivre et goûter davantage là, le fruit de ce que l'Église de Christ sur la terre peut produire lorsque on se greffe avec d'autres assemblées. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent à l'esprit, mon cher Fred, avant qu'on mette fin à cette émission?
Non, merci. Il me semble qu'on a dit déjà beaucoup de choses. So happy together.
C'est formidable. Eh bien, cette émission vous apparaît à la mi-avril. Et là, j'ai pas pensé à vérifier avec toi s'il y a quoi que ce soit qui s'en vient, qui serait digne de mention, une conférence en vue ou quoi que ce soit que tu voudrais promouvoir.
Oui, on va avoir le séminaire Évangile 21 du 7 au 11 mai. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Bon, c'est le samedi 11 mai, donc ça fait vendredi 10, jeudi 9, voilà, 8, alors du 8 au 11 mai à Genève. Donc un séminaire qui a un programme très très intéressant et on vous encourage à vous inscrire s'il reste des places quand au mois d'avril vous entendrez ce podcast.
Merci, mon cher Fred, pour cette info. Et puis, merci de ta participation depuis deux semaines sur ces sujets importants, à la fois pour le ministère pastoral et la vie de l'Église.
Merci à toi.
Donc, la semaine prochaine, je reçois un invité, si on arrive à se connecter avec une bonne connexion Internet, qui vient de l'île Maurice, parce qu'on veut parler de l'œuvre de Dieu dans cette région, cette petite région du monde. Mon invité, Dan, ben, c'est lui d'ailleurs qui a fait le visuel pour Coram Deo, le logo, et puis depuis plusieurs années, nous fournit toutes sortes de matériel. Il doit même lancer la boutique, peut-être qu'elle sera déjà lancée au moment où on se parle, avec plusieurs trucs, pas juste à l'effigie de Coram Deo, mais il est un artiste pour nous faire des beaux t-shirts de la réforme avec des phrases, des slogans ou la tête de que ce soit de Luther ou de Spurgeon. Et donc j'espère que ça va pouvoir bientôt paraître pour qu'on puisse afficher nos couleurs dans la résistance culturelle, tiens, pour faire un lien avec le, comment on l'appelle,
le maquis eschatologique,
merci. Donc c'est la semaine prochaine, j'espère que vous serez des nôtres, n'hésitez pas à partager notre contenu, à commenter, à interagir, ça fait toujours plaisir, et puis voilà, ben, que Dieu vous bénisse.
Parce que moi, je t'entends pas. Est-ce que c'est une bêtise, une erreur?
Non, c'est moi qui fais des bêtises.
Micro. Tu m'entends? Toi, tu m'entends?
Oui.
Ouais. Alors que moi, je t'entends pas. Mais peut-être que c'est moi qui ai mal.
Non.
Alors,
Fred.
Je sais pas. Est-ce qu'il ne repère pas mon micro? 1, 2, 1, 2.
C'est de ma faute.
Tu crois que c'est toi? Ah ouais, c'est ta faute? Ok. Malte, il tente. Ouais.
Ah, où c'est la caméra? Là.
Bah, de toute façon, moi, je l'entends pas non plus parce qu'il a mal réglé son truc.
Ça va? Bah, ça va?
On ne peut pas l'entendre.
Oui. Mais si, il répond. Hein, qu'est-ce que tu crois, toi?
Mais tu lis sur les lèvres, tu es formidable, Calin.
Extraordinaire. c'est mieux la barbe plus courte, franchement.
Oh non, ne dis pas ça, c'était un hipster magnifique.
Non, c'est mieux.
Good. Ça va bien chez toi, mon frère?
Écoute, ça va, je te remercie. Bien, bien occupé, comme toujours, mais ça va. Et toi?
Oui, ça va bien aussi. On a un hiver assez doux quand même, donc on souffre moins.
Nous aussi. C'est presque inquiétant parce qu'il est vraiment doux et on a des herbes qui habituellement fleurissent fin février, début mars et qui là sont en fleurs. Donc bon, on verra ce que ça va donner.
Ah oui, c'est ça. Mais depuis le temps qu'ils nous promettent le réchauffement de la planète...
Mais c'est sûr que toi, ça va te faire du bien. Mais enfin, nous, on a déjà chaud l'été. Si en plus l'hiver se met à être chaud, ça fera beaucoup.